J'ai donné un titre à la prédication de ce matin. Le titre, c'est « La loi de Christ ». À ce titre, j'ai collé une recommandation de l'apôtre Paul, que l'on trouve dans Galates 5, verset 25, qui est la suivante « Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit ». Alors vivre, quand on voit la définition, vivre, c'est être doué de vie, c'est être en vie. C'est un don, c'est quelque chose de rudimentaire. Alors que marcher, si on s'intéresse un peu à la définition dans les dictionnaires, on voit que c'est une succession de déséquilibres qui provoque un mouvement. Marcher, c'est quelque chose qu'il faut provoquer, qui implique un apprentissage, et qui, au final, va nous faire avancer. On voit aussi que ces deux mots sont très connectés, puisque si on ne vit pas, si on n'est pas en vie, ça va être compliqué de marcher. Et telle est la vie chrétienne. Nous la vivons, réellement, si nous marchons par l'esprit, et si nous manifestons l'amour et les caractères qui sont l'accomplissement de cette fameuse loi de Christ. Loi de Christ qu'on va ce matin définir à travers le chapitre 6 de la même lettre aux Galates, une lettre qui a été écrite par l'apôtre Paul aux églises locales de Galatie, on suppose de la Galatie romaine, aux alentours de 49 après Jésus-Christ, adressée à des croyants, des chrétiens d'origine juive, mais aussi d'origine païenne, sans arrière-plan juif, quoi. Alors après la lecture du chapitre, je vous propose d'aborder deux points. Le premier, voir comment Paul définit cette loi de Christ. Et puis ensuite de voir ce que l'apôtre nous propose pour mettre en pratique cette dernière. Ce matin, on va observer ce que représente la loi de Christ pour l'apôtre Paul. Et pour ça, on partira de la fin du chapitre. Et puis dans un deuxième temps, on verra comment Paul nous propose une mise en pratique de cette loi de Christ. Alors on va démarrer ensemble. Déjà pour, avant de voir ce que Paul appelle la loi de Christ, un petit contexte un peu par rapport aux églises de Galatie et puis par rapport à ce chapitre. Le contexte, certains d'entre vous doivent sans doute bien le connaître, vous avez peut-être dû l'étudier, mais je rappelle très brièvement. Dans la lettre aux Galates, on peut compter 5 fois le nombre de fois où Paul dit aux églises locales « Est-ce que vous voulez être sous la loi ?» Et il parle de la loi mosaïque. Puisqu'on est ici dans un contexte où il y avait des abus de légalisme, des églises qui prenaient en compte la loi mosaïque, mais au pied de la lettre, et qui, pour eux, c'était plus important, pour certains groupes, de se confier dans les rites pour être sanctifié, plutôt que dans la foi en Jésus-Christ, pour être sanctifié et mis à part. On est dans ce contexte-là. Il y avait certains groupes, par exemple, qui mettaient une importance toute particulière sur la circoncision, ou sur telle ou telle pratique alimentaire. Si tu es circoncis, tu peux adhérer à notre groupe d'église. C'est un peu cette idée-là. Et c'est contre ça que Paul lutte dans ce chapitre et dans toute l'épître aux Galates. Et on le voit plus précisément dans notre chapitre en question, au verset 12 à 13. « Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire, uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix de Christ. » Plus loin, « Mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. » Là, il dénonce un petit groupe qui, comme je le disais, formait des adeptes par la circoncision. Alors soit c'était peut-être pour faire du nombre, faire grandir leur église. Tu n'es pas circoncis, attends, circoncision, c'est bon, tu peux adhérer, et ça fait du nombre. Ou, on le voit là, il dit aussi, Paul, que c'était pour éviter la persécution, que certains faisaient ça par peur de certains juifs extrémistes. Voilà, fais ça plutôt, c'est ça qui est important. C'est ça un peu que dénonce Paul, ces abus-là. Et quand on voit ces abus-là de légalisme, je réfléchissais un peu et je me disais, c'est des choses qui peuvent guetter aussi nos églises locales aujourd'hui. Par exemple, pour eux, c'était soit circoncis, et puis voilà, c'était une façon d'adhérer à ces petits groupuscules. Aujourd'hui, on voit des églises grandir par l'adhésion de membres qui ont juste répondu à certains critères, par exemple baptême de ça ou baptême de ça, ou tel rite pour accéder à l'église ou quoi. Voilà. Des églises tiennent comme ça par les rites. Ils mettent en valeur les rites, la tradition. Il y a même des églises qui grossissent
en mettant en valeur la tradition en premier. Et il y a même à l'extrême un certain type qui s'appelle aussi des assemblées. Je vais vous montrer une photo. Est-ce que vous voyez ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on voit sur cette photo? Vous pouvez dire à voix haute, si vous voulez. Qu'est-ce que vous observez? Des dames qui sont devant, ouais, en blanc. Un orchestre, ouais. Ouais, ça vous fait penser... Moi, ça me fait penser un petit peu à ce qu'on peut voir dans nos configurations d'église. Hein. Il y a un groupe de musique, un vidéoprojecteur, une assemblée. Et en fait, ça, c'est une photo d'un mouvement qui s'appelle les assemblées du dimanche. On voit, vous voyez la phrase traduite en haut. Ah, vous voyez pas. La traduction, grosso modo, peut-être il y a des Anglais qui sont meilleurs que moi là-dedans, mais c'est en nous-mêmes la vérité. C'est un peu ça, en ce qu'on dit, nous-mêmes la vérité. Ça s'appelle les Assemblées du Dimanche, c'est né en Angleterre, et il y en a maintenant sur Paris. En fait, ils se réunissent dans des églises qui rachètent, des églises, des temples, etc. Et il y a un moment de chant, il y a un moment de témoignage, il y a un moment avec un orateur, des conférences, des groupes de paroles. Sauf qu'on a enlevé le divin de cela. On chante des chansons, des tubes de la radio. Les conférences, c'est sur des thèmes qui sont sur notre développement de vie, comment être un winner, comment être un champion dans la vie, On enlevait tout ce qui est divin, sauf que ça s'appelle les assemblées du dimanche, et c'est dans des anciennes églises. C'est un mouvement qui grossit énormément. Là, c'est arrivé en France, sur Paris. Il y a même beaucoup de chrétiens, on a une amie en Angleterre qui dit, de temps en temps, je vais là aussi, bon, soit je vais à l'église, soit je vais là. Et au final, ils se réunissent dans des traditions qu'on pourrait connaître, des habitudes qu'on pourrait avoir, nous, sur la forme. Mais sur le fond, on a enlevé le divin. Voilà un des abus extrêmes. Je vous ai voulu en parler parce que moi, ça m'a pas mal remis en question de voir ça et de voir comme quoi ça peut aller vite dans notre société de se fondre et se mettre la priorité sur la tradition, des fois, le cadre, et en oublier l'essence divine. Personnellement, ça peut être le cas aussi. Quelquefois, on peut être connu pour ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas. On peut mettre en valeur ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas, au lieu de mettre en valeur en priorité la croix et ce qui fait qu'on est chrétien, l'essence même, la croix de Jésus-Christ. Alors voilà très brièvement ce que Paul dénonce, ces abus de légalisme chez les Galates. Et voyons maintenant, vers la fin du chapitre, la loi de Christ, comment Paul la définit. On a un premier point. Au verset 14, « Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde. Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. » Premier point fondamental pour Paul, pas se glorifier d'autre chose que de la croix de Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi. Glorifier celui qui a pris ma place sur la croix, celui par qui mes péchés sont effacés. Ça, c'est le premier point que Paul souligne et que je voulais mettre en valeur. Car pour Paul, Jésus-Christ, c'est celui qui a tout accompli. Dans Matthieu 5, on voit même que Jésus a accompli la loi. Il a tout accompli par la croix, comme on vient de le lire au verset 14. Il a accompli par le don du Saint-Esprit, Romains 8, verset 2. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché. Jésus-Christ a tout accompli par une parole, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, Galates 5, 14. Celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors que la loi de Moïse exigeait l'amour, on voit là que la loi de Christ, c'est l'amour même. Autre point, le verset 15. C'est rien d'être circoncis ou incirconcis, parce qu'on peut imaginer que chez les Galates, il y en avait même qui se battaient à l'inverse, ceux qui étaient pour la tradition et ceux qui étaient tout contre la tradition. Voilà, deux extrêmes. C'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, nous dit Paul, c'est d'être une nouvelle création. Voilà un des points fondamentaux. Pas une addition ou un montage, c'est pas ce que l'on est. En Christ, nous sommes une œuvre nouvelle, nous sommes régénérés, nous sommes tout à fait mis à part. Et c'est ça qui nous met à part. C'est l'œuvre de Jésus-Christ. Ce qui compte pour Paul, et là, on fait un saut dans le verset 10, troisième chose, se glorifier de la croix de Jésus-Christ, on a dit être une nouvelle création, et verset 10, pratiquons le bien. Pratiquons le bien. On a, là, en quelque sorte, on pourrait la compléter, cette définition, mais on a une définition générale de cette loi de Christ, celle qui devrait faire vibrer nos églises, celle qui devrait faire vibrer chacun de nos ministères, de l'école du dimanche au ménage, aux sorties dans la rue, à tout, celle qui devrait inonder nos cœurs et inonder nos villes, se glorifier de la croix de Jésus-Christ, être une nouvelle création et pratiquer le bien. Et Jésus-Christ lui-même résumait cela avec ce passage de Jean 13. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns les autres. Alors, on a un peu posé le fondement, ce que nous propose Paul sur la loi de Christ. Voyons un peu maintenant, dans une deuxième partie, comment il nous propose de mettre en pratique tout cela. Et avant de passer à la suite, je voulais juste vous raconter une petite histoire, parce que j'aime bien les histoires. Et alors, je suis obligé de me déplacer un petit peu, c'est l'histoire d'un voyageur. C'était un pèlerin, un peu un gars avec son sac à dos qui baroudait dans le monde entier. Et ce gars-là, il voyageait. Et puis il va arriver un soir où il va devoir trouver un endroit pour dormir. Alors il va aller trouver une porte, il va toquer à la porte. Est-ce que je peux dormir chez vous, monsieur ? On va lui ouvrir la porte, il va pouvoir dormir quelque part, donc il est super content. Il entre, les deux autres, très rayonnantes, ça, lui disent « Monsieur, venez, vous devez avoir faim !» Il dit « Ouais, très faim. Venez, on va vous faire à manger. » Alors il va dans la cuisine, casserole, cassoulet géant, de l'eau rafraîchissante, un bon gueuleton. Il mange à sa faim, il est rassasié. Puis après, les autres lui disent « Monsieur, vous devez avoir envie de prendre une bonne douche, vous avez marché dans le sable, pendant longtemps vous transpirez, vous avez besoin de prendre une bonne douche. » Ah ouais, si possible. Alors il va à la douche, et puis là, une douche mais bien chaude, avec du bon savon qui sent bon, voilà. Il prend sa douche, il est très heureux. Après ils disent, monsieur, vous devez être très fatigué. On va vous donner notre chambre, voilà. Vous pouvez aller dormir dans notre chambre, reposez-vous, nous on va se mettre dans le salon. Waouh, super. Il va dans la chambre, il se met sur le grand lit, king size, super bien, il est sur ce lit-là. Puis le matin va arriver, il va dormir, passer une nuit très bonne, encore une fois. Et puis il va se mettre devant son lit, puis il va faire « Mon lit, je te remercie parce que grâce à toi, j'ai passé une bonne nuit. Merci. » Puis il va aller à la douche, puis il va se mettre devant la douche, il va faire « Oh, la douche, merci, parce que grâce à toi, j'ai pu bien me doucher. Merci, savon aussi. Voilà, » Et puis il va dans la cuisine, il se met devant les casseroles, devant les restes de cassoulet. « Oh, merci, cassoulet géant, merci, casserole, parce que grâce à toi, je me suis rassasié. » Et puis notre voyageur s'en va. Prend la porte, s'en va. Puis les deux hôtes, au matin, se réveillent. Plus de voyageur, il est parti. Et ce voyageur-là, je ne sais pas vous, mais moi, en quelque sorte, il me fait penser aux Galates, et puis à moi aussi, quelquefois. Parce qu'on a l'exemple du gars qui avait compris ce que c'était les rites, la tradition des choses, mais tellement rempli peut-être, je ne sais pas moi, d'orgueil ou aveuglé qu'il en oublie l'essentiel. Rendre gloire à Dieu, au Créateur et pas à la création, et de faire le bien. Un peu le cas de ces Galates, et un peu notre cas quelquefois, peut-être, en tout cas moi je le confesse. Et si Paul devait s'adresser à notre voyageur, peut-être qu'il lui dirait comme le verset 7, « Mon gars, tu sais, on ne se moque pas de Dieu. » Et puis peut-être que Paul continuerait et lui dit, « Viens avec moi, prends un calepin, et puis je vais te montrer quatre clés pour t'aider à appliquer un peu cette loi de Christ. » Et si on continuait un peu au sein de ce chapitre, qu'on a commencé à voir un peu ensemble, je vous propose de voir quatre clés que Paul nous propose pour mettre en pratique la loi de Christ. Première clé, redresser. Et là, on voit le verset 1. Si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Wow, quand j'ai vu ça, je me suis dit, vous qui êtes spirituel. Alors, qu'est-ce que c'est un chrétien spirituel ? Alors, qu'on ne s'inquiète pas, ce n'est pas celui qui est parfait ou celui qui est sans faute, puisqu'on ne l'est pas. Mais un chrétien spirituel, c'est celui qui a un cœur compatissant, celui qui a un esprit de douceur, d'humilité. Celui qui se rappelle aussi que lui aussi peut être tenté, qui suit quelque part l'exemple que Christ nous a donné, qui est ce disciple-là qui essaye d'avoir une vie intègre et de prendre ce don de Dieu. Parce qu'on peut faire beaucoup de dégâts si on ne rentre pas dans ce cadre-là. On peut faire beaucoup de dégâts si nous-mêmes, on ne se remet pas souvent en question par rapport à notre vie et les domaines dans lesquels on peut être tenté. Alors là, on a ce premier point, oser redresser. Oser redresser, même si ça peut coûter dans nos églises locales, c'est vrai que des fois, on a peur de se dire « Waouh, il faut aller redresser quelqu'un, il faut aller dire à un frère, écoute, là ça ne va pas, écoute, viens avec moi, on va en discuter. » Ça peut coûter, mais si on le fait dans l'amour du Seigneur, eh ben, ça peut faire que avancer l'église et construire l'église. Deuxième point que Paul nous propose, c'est porter. Verset 2, « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Porter quoi ? Ben, on peut imaginer porter les manquements des uns des autres, de nous-mêmes, porter les tentations, les épreuves, se confier cela et s'encourager à remettre ça à Dieu. C'est ça, se porter les uns les autres. Et puis on voit aussi qu'il nous dit porter aussi sa charge personnelle. Des fois, on utilise l'expression « porter sa croix ». Mais je ne sais pas si on imagine ce que ça veut dire « porter sa croix ». À l'époque, le crucifié, époque romaine, il devait porter sa croix en étant torturé tout le long du chemin, ce qu'a vécu Christ, mais c'était le lot de tous les condamnés à la crucifixion. Alors, est-ce qu'on en est là ? Est-ce qu'on est là à porter notre charge nous-mêmes et est-ce qu'on le fait seul ou est-ce qu'on remet ça à Christ ? Parce qu'on a Christ qui est là pour nous accompagner dans cela. Alors, pratiquer le bien, c'est porter. Pratiquer le bien, c'est se soutenir. Lecture, verset 6, pardon. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Et je voulais rajouter un passage de 1 Timothée 5 par rapport à ça. Là, on parle des frères enseignants. Mais si on a élargi cela, 1 Timothée 5, verset 17, que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et l'enseignement. On a ce rôle-là dans notre église locale de soutien envers nos frères enseignants, nos frères anciens, si on l'élargit à tous ceux qui ont des responsabilités dans des ministères. Là, on parle de biens temporels, ça peut être à la fois argent, ça peut être du temps qu'on va donner pour prier peut-être avec le frère, la sœur, pour prendre des moments pour l'encourager. Nous, on le vit dans notre église locale à Antibes, on a à peu près 90 membres de l'association, au culte on est 150 et il y a 3 anciens, on n'a pas de pasteur plein temps. Je me rends compte à chaque fois de waouh, quelle tâche ils ont, quel rôle ils doivent jouer, le temps qu'ils mettent dedans. Et ça me fait me rendre compte de, oui, il faut que je sois là pour être un soutien pour eux. Prendre un temps, peut-être un jour, inviter un ancien et lui faire à manger. J'ai proposé ça à un des anciens la semaine prochaine, on se voit, j'apporte à manger. Ça va peut-être être ça, soutenir nos enseignants, nos anciens. Les soutenir de cette manière-là. Mais pratiquer le bien, c'est soutenir. Pratiquer le bien, le dernier point, c'est semer. Lecture du verset 7 à 9. « Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. On pourrait dire plein de choses par rapport à ces versets-là, mais pour aujourd'hui, voir ensemble que semer, déjà, c'est récolter. Je m'enseigne un peu en agriculture. Un paysan qui sème du blé moissonne parfois 30, 50 à 100 fois plus que ce qu'il a semé. Alors, allons-y. Semons, moissonnons, récoltons. Et Paul nous enseigne ici la valeur qui va avec semer. Ne nous lassons pas de faire le bien. Ne nous lassons pas de faire le bien. En tant qu'Église, on ne doit pas se lasser de faire le bien. Ne pas compter, ne pas avoir un esprit de « Ah, cette fois-ci, j'ai fait 2 allers-retours pour aller à l'église cette semaine, alors la semaine prochaine, j'en ferai 1 ». Non, ce n'est pas ça la conception du service selon le Seigneur et selon ce que nous enseigne l'apôtre Paul. Semer, servir le Seigneur, c'est donner sans calculer. C'est aussi peut-être pratiquer le bien envers ceux qui ont besoin, sortir dans la rue, aller prendre du temps avec une personne qui est seule, dans l'église ou dans la rue, je ne sais pas. Il y a une réflexion qui m'a secoué en préparant ce message il y a déjà plusieurs mois. J'avais une réflexion par rapport aux sans-abri. Le Seigneur m'a mis un peu à cœur de prier pour les sans-abri et de m'informer aussi. C'était quelque chose, j'avais un cœur de dire, à Antibes, je ne sais même pas, est-ce qu'il y a des SDF ? Je n'ai jamais fait attention. Comme dit certains versets qu'on peut lire dans l'Ancien Testament, moi, mon regard fuyait quand je voyais certains sans-abri. Alors, je voulais travailler juste à ça, prier le Seigneur pour ça. Et le Seigneur m'a parlé de différentes manières à ce moment-là, par des frères et sœurs qui m'ont dit, si tu penses à ça, continue à prier, on va prier pour ça aussi avec toi. Puis il y a un frère qui s'appelait Stéphane qui m'a dit, tu sais, moi, dans mon église en Belgique, on avait un ministère par rapport aux sans-abri, et depuis, il y a plein de sans-abri au culte qui viennent et avec qui on a des parcours de discipulat, tout ça. Je me disais, c'est vrai que déjà, nous, à l'église d'Antibes, j'ai jamais vu de SDF sur les chaises de l'église. Je me disais, j'ai envie de prier pour ça, d'avancer là-dedans. Et le Seigneur a continué à me travailler. Et puis, le lendemain d'avoir parlé avec cet ami, Stéphane, je vais à la gare pour prendre un train. Je devais être en déplacement, je devais aller sur Valence. Et je m'assois, je regarde. 15 minutes de retard. SNCF, normal. 20 minutes de retard. D'accord. Donc, je suis assis. Puis là, je vois un homme s'approcher un peu avec des habits. Et il s'est approché de moi. Et il me dit, vous n'avez pas une pièce pour un café ? Là, j'étais en lutte. Me dire, qu'est-ce que tu es en train de prier en ce moment ? Tu parles au Seigneur pour ça ? Alors, regarde-le. Je l'ai regardé. Et je lui ai dit, on peut prendre un café ensemble. Je vous le paye. On a pris un café ensemble. On chat, je lui dis, vous appelez comment ? Il me dit, Stéphane. Je lui dis, Stéphane, ça me rappelle un copain qui m'a fait penser à des choses. C'était dans ma tête tout ça. Et on parle ensemble. Et puis je vois que le Seigneur continue son travail intérieur. C'était dur, je luttais parce que c'était difficile pour moi cette situation. Et puis il était là, il avait très très froid. Il me dit, j'ai très très froid. T'sais. Moi j'avais une grosse doudoune, une écharpe, tout ça. Il avait très très froid. Et dans ma tête, je me dis, il faudrait que je lui donne mon écharpe. Non, je sais pas. Et puis je voyais qu'il n'y avait plus de retard pour le train, j'étais là, je réfléchissais. Et puis en fait, je suis parti. Je n'ai rien donné à cet homme-là, je suis parti. Et après, en réflexion, je me suis dit, mais David, c'est bien, tu as amorcé une gymnastique dans ta tête, déjà de ne pas détourner ton regard, etc. Et je me suis dit, mais il faut persévérer. Du coup, j'ai continué, j'ai repris le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, aide-moi dans ce domaine-là, parce qu'il faut vraiment que tu me travailles par rapport à ça. Puis j'ai continué à prier. Plus tard, on est sorti dans la rue sur Antibes avec cet ami Stéphane, l'autre Stéphane, le premier. Mais je continue à prier le Seigneur parce que c'est une gymnastique de répondre à cet appel-là de pratiquer le bien envers tous. C'est une gymnastique. Et c'est la gymnastique qu'on a à faire en tant que chrétien, que ce soit pour pratiquer le bien, que ce soit dans le service, comme je disais tout à l'heure, de ne pas être dans des calculs des fois ou autre. Mais c'est ça, se vivre et marcher par l'esprit. Alors, pour conclure, je voulais juste remettre un récapitulatif des versets qu'on a vus ensemble. On va prendre un petit temps dans le silence pour réfléchir à ces points qu'on a vus. Je vous propose, si ça vous va. Alors, ce n'est pas avec la même ardeur que Paul que je vous ai partagé ce chapitre. On voit au verset 11, Paul leur disait « Voyez avec quelles grandes lettres je vous écris de ma propre main. » Selon certains spécialistes, Paul était à ce moment-là infirme. Et quelles grandes lettres, c'était au pied de la lettre qu'il faut le prendre, c'est-à-dire qu'il écrivait très gros parce qu'il ne pouvait pas beaucoup bien lire. Dans Galates 4, on voit qu'il souffrait les douleurs de l'enfantement en leur écrivant. Vous voyez l'ardeur avec laquelle Paul nous délivre ce message aux Galates et puis à nous aujourd'hui. Alors qu'on puisse prendre ces paroles au sérieux, qu'on puisse les faire résonner dans notre cœur, les remettre en prière à notre Dieu, et qu'on puisse faire vibrer ces paroles-là dans nos ministères, dans notre vie d'église locale, dans nos familles, dans nos vies personnelles. Merci pour votre écoute, et puis je vous propose vraiment si on peut prendre quelques secondes juste dans le silence, et je laisserai mon frère conclure en prière.